Et nous sommes en direct depuis les studios de Manosque sur Radio Fréquence Mistral avec Carola et Antoine. Vous êtes tous les deux membres du collectif Elzéar Lure en Résistance, collectif opposé au projet photovoltaïque industriel dans la montagne de Lure. Bienvenue sur nos ondes.
Bonjour.
Bonjour.
Il y a eu tout un tas d'événements ces derniers temps liés à ces questions des centrales photovoltaïques et du solaire, du soleil qui est à vendre dans notre région, avec un accès à des terres souvent pas chères, avec pas grand chose dessus puisque ce sont des arbres. Et bien sûr, vous êtes là pour parler de ça. Et c'était ironique quand je disais pas grand chose dessus, bien sûr.
Oui, même le canard enchaîné, il en parle. Le soleil a rendez-vous avec la thune, voilà. Donc,
il a eu un article récemment spécifiquement sur la montagne de Lure.
Oui, même il cite Cruis et Ongles. Donc, il y a des gens du canard qui doivent être ici dans le coin. Et donc, je voudrais juste en parler. Pourquoi Elzéar Lure en Résistance? On s'est rendu compte en 2019, suite à des réunions qui ont eu lieu dans plusieurs villages du pays de Fort-Calquier, de la montagne de Lure, qu'il y a une multitude de projets photovoltaïques dans la montagne de Lure, une vingtaine, et qui concernent entre 600 et 1000 hectares. Et ça nous a surpris d'apprendre ça. On trouve couper des arbres pour sauver la planète, c'est insensé. Et donc je donne la parole à mon collègue qui va parler un peu de la fonction de la forêt.
Voilà, ouais, je voulais dire un petit mot sur pourquoi il faut des arbres. Pourquoi dans notre région on pense que des arbres c'est mieux que des panneaux? Alors, par exemple, déjà, les arbres, ils nous tempèrent le climat. C'est-à-dire qu'on sait qu'un vieux hêtre, il peut évaporer jusqu'à 400 litres d'eau par jour. Donc, c'est énorme. Les arbres, ils nous créent vraiment un climat de fraîcheur. Et on sait qu'avec les changements climatiques, cette fraîcheur, on en a vraiment besoin. Et puis, par ailleurs, les arbres, ils nous stockent aussi du carbone, ce fameux CO2 là qui nous embête parce qu'il paraît qu'il réchauffe le climat. Il paraît. Et les arbres nous le stockent donc sous forme de bois. Et donc c'est pour ça que les arbres ont plein d'autres fonctions, hein, la lutte contre l'érosion, le refuge pour la biodiversité, bien entendu. Mais voilà pourquoi on pense que notre région, avec les changements climatiques qui s'annoncent, ont vraiment besoin d'arbres, de forêts, plus que de panneaux solaires.
Et Carola, vous nous parliez de 20 hectares, sur la montagne de Lure, donc sur des zones de forêt, j'imagine. Et par qui sont proposés ces tenues plutôt que proposés ces projets?
Eh ben, c'est plein de sociétés qui s'engouffrent dans le marché du photovoltaïque. C'est des entreprises soit françaises comme Engie. J'ai pas tous les noms là présents. Attendez, je regarde ma carte. Il y a donc Engie, comme j'ai dit, il y a Sonedix, il y a Soralex, Boralex, en partie c'est des entreprises qui sont, donc Boralex qui est à Cruis, c'est une entreprise canadienne. Il y a, sur Bannon, il y a une entreprise qui s'appelait RES qui était anglais, entre temps c'est vendu à un sud-coréen. Voilà, donc de toute façon, la carte qu'on a établie, ça c'était un des premiers travaux qu'on a fait au sein du collectif, qui s'appelle donc Elzéar Lure en Résistance, et on l'a mis sur le site. À la fin de l'émission, je vais donner les coordonnées pour le site, donc là on peut regarder tout ça. Sûrement il y a d'autres projets qui vont voir le jour parce que donc comme j'ai dit les entreprises s'engouffrent dans un marché qui est juteux. Pourquoi ici? Parce que ici dans la région il y a beaucoup de soleil. Même en été, le soir il y a quand même plus de fraîcheur que plus au sud. En plus il y a peu d'habitants qui pourront se révolter contre cette intrusion.
Ne serait-ce que donner leur avis, public, puisqu'il n'y a personne. Donc, et la fraîcheur, pardon, ça permet de...
Ça refroidit les panneaux. Donc
c'est avantageux aussi.
Voilà, ça a une plus grande efficacité alors. Et donc, marché juteux, parce que le prix est garanti par l'État pour la vente. Et les banques prêtent facilement parce qu'ils savent que les prix sont garantis. Donc ces entreprises, ils ont un démarchage assez agressif auprès des communes. Les communes, vous le savez peut-être, ils ont beaucoup de difficultés parce que les dotations de l'État sont en train de baisser. Donc tout le monde cherche de l'argent. Et alors quoi de plus facile comme
rente quelque part, entrée d'argent.
On sacrifie 17 hectares pour le photovoltaïque parce qu'on a encore beaucoup d'autres forêts. Et avec l'argument, si on ne fait pas ça, les habitants, ils devront payer plus d'impôts locaux. Comme ça, ils trouvent facilement un accord ou comment dire, les gens, quand ils pensent à leur porte-monnaie, souvent, ils sont pour les facilités, alors qu'ils ne pensent pas du tout qu'est-ce que ça fait au long terme, quoi. Mmh. Parce qu'une terre qui est condamnée pour 30, 40 ans, déjà, on a créé un cimetière de la biodiversité. Et qu'est-ce qui va devenir ce terrain une fois que les panneaux ne vont plus être productifs? À qui ça revient de débarrasser tous ces poubelles industrielles? Est-ce que c'est les communes? Est-ce que c'est l'État? C'est plein de questions qui ne sont pas du tout discutées par les habitants de la région, quoi.
Et vous nous parliez tout à l'heure des zones forestières où sont implantés ces projets. C'est sur des zones forestières aussi diversifié ou il y a un type de forêt spécifique qui est ciblé ou c'est pas du tout la priorité c'est fait en fonction des terres, pas en fonction de la forêt.
Alors jusqu'à présent, les projets dont on connaît l'existence, ils sont sur plusieurs types de forêts. On a des reboisements assez jeunes et on a également des friches, quoi, des sortes de reboisements spontanés. Mais par contre, il y a un truc étonnant à dire sur ce sujet-là, c'est que à Cruis, par exemple, où il y a un projet qui est tenu par la multinationale canadienne Boralex, à Cruis, donc les arbres qui ont été coupés étaient issus de reboisements financés par l'État, parce qu'on est sur un terrain communal. Et donc ces arbres étaient en milieu de vie, quoi. C'était des arbres qui avaient 10, 15 ans, donc ils n'avaient pas atteint leur croissance maximale et apparemment, ça n'a pas d'importance. On les a coupés avant la fin, donc l'État a payé des reboisements pour rien, au profit d'entreprises.
Oui, ce qu'il faut dire, que l'État il se désengage de plus en plus, parce que les terrains communaux, les forêts communaux, souvent, ils sont gérés par l'ONF. Donc, en contrepartie, ils reçoivent de l'argent de la commune. Et maintenant, c'est assez opaque pour moi encore. Ils ont aussi une contribution des entreprises énergétiques, en contrepartie qu'eux, ils ne s'occupent plus de ces terrains qui vont être défrichés. Toutes ces questions-là, en fait, ils sont assez, on les laisse aux spécialistes. Et nous qui habitons ces régions quand même, on manque de débats, on manque cruellement de débats publics sur toutes ces questions-là.
Et ce collectif, justement, Elzer, il est aussi là pour amener cette chose publique en débat. Quelques mots sur ce collectif, ça représente combien de personnes? Il existe depuis 2019
Disons, il y a un noyau qui est actif. Je ne peux pas dire combien de personnes il y en a. Mais entre-temps, au début, on a commencé par en parler. Donc, on a créé cette carte. On a fait plein d'événements sur Cruis, sur Angle, pour faire connaître ces lieux. Que les gens ils se rendent compte de quoi on parle. À Angle, par exemple, c'est une forêt qui est très exceptionnelle parce que il se trouve sur la forêt, donc elle se trouve sur une zone humide. Et donc après, il y a des enquêtes publiques, donc il y a des avis pour, contre. Et les entreprises, ils comptent déjà de réduire les terrains Mais je veux dire, même s'ils épargnent la zone humide, si on coupe la forêt autour, ben, elle se nourrit de beaucoup plus loin, quoi. C'est pas parce qu'on coupe, on enlève quelques hectares que ça va pas avoir une incidence. Et bon, les zones humides en Provence, ils sont très rares. Voilà, donc c'était pour ramener, pour faire connaître toute cette problématique aux gens. Les gens, ils ont répondu oui à ces rendez-vous-là. Bon, on a fait des stands, on a fait la musique, on a fait des spectacles. Donc c'était assez festif et ça a attiré toujours une centaine de personnes. Ensuite, on a proposé des balades en forêt tous les dimanches, faire des pique-niques ensemble. Et des expositions, des films, débats, on est allé sur les marchés pour en parler. On a fait connaissance aussi avec des collectifs qui se sont créés dans le 05, parce que là-bas, la problématique, c'est pareil. Donc, entre-temps, on a créé un collectif, je vais dire le nom, c'est le collectif citoyen pour un autre photovoltaïque dans les Alpes du Sud. Là, on a créé un manifeste qu'on a signé à plein de d'organisations, de collectifs, d'associations, pour faire un peu un front commun.
Mmh. Il est disponible où, ce manifeste ?
Ce manifeste, il est disponible là où on se trouve, nous. On le donne volontiers. Je ne sais pas si on l'a mis sur le site.
Voilà, rejoignez-nous sur des événements si vous voulez lire notre manifeste.
En tout cas, vous avez un site internet où on peut trouver l'ensemble des informations. Et en se rendant lors des événements que vous organisez, on peut trouver donc ce manifeste.
Voilà. Et donc, on se voit aussi complètement en complémentarité avec une association qui est... Parce que nous, on n'est qu'un collectif, on n'est pas constitué en association. Mais par contre, il y a une association qui s'appelle Amilure, qui est déjà plus ancien que nous. Et on se voit complémentaire, en tout cas, parce qu'eux, ils font beaucoup plus ce côté juridique. Ils ont fait des recours contre le projet à Cruis et à Ongles, donc qui n'était pas du tout encore jugé. Mais voilà, donc c'est peut-être aussi le bon moment pour en parler. Qu'est-ce qui s'est passé sur Cruis tout dernièrement, en septembre? Donc il y avait un recours juridique et... En tout cas, les gens sur place, ils savaient que le permis de défrichement, il était, comment on dit ça, quand il est plus valable. Donc, mais la prolongation, elle n'était pas du tout affichée en mairie. Mais c'est les voisins qui se sont rendus compte le 19 septembre, donc c'était un lundi, qu'il y avait des machines sur place qui ont commencé à déboiser. Et donc, il y a une première mobilisation qui a eu lieu le mardi. On s'est trouvé sur place à une quarantaine. Malheureusement, on n'a pas réussi à le démarrage le matin des travaux. Donc, c'est une entreprise locale qui s'appelle Société Forestière de la Durance, qui a amené du gros matériel, parce que donc d'un côté, il y a les bûcherons, mais après, il y a aussi les machines pour charger les arbres coupés.
Il s'agit donc d'une entreprise sous-traitante, hein. Il ne s'agissait absolument pas de la multinationale dont vous a parlé, quoi.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et... Donc, les gens, ils ont fait venir un huissier pour constater qu'il n'y avait pas d'affichage. Mais alors, il se trouvait qu'ils ont mis un affichage pour la prolongation du défrichement. Et à Boralex, ils ont dit publiquement dans une émission de, je crois que c'était Antenne 2, qu'ils l'ont pas mis en évidence parce qu'ils ne voulaient pas alerter les gens. Ils le disent vraiment comme ça.
Oui, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que quand on va défricher un terrain, afficher cette, cette autorisation de défrichage, c'est une obligation légale. Mais a priori, cette multinationale a décidé de ne pas suivre cette obligation légale pour ne pas pour éviter justement la contestation. Ils préfèrent en somme être dans l'illégalité et payer des amendes. J'imagine qu'ils font quand même des profits assez monstrueux, donc j'imagine que c'est pas très important pour eux de payer l'amende.
Voilà, donc le mardi, on a obtenu... donc c'était un chantier qui était quand même aussi... il y avait la présence de la gendarmerie. Il y avait une entreprise de sécurité qui était engagée par je ne sais pas qui. Il y avait aussi quelqu'un qui était dépêché par la préfecture. Mais on était assez nombreux pour, je veux dire, on se trouvait dans notre droit légitime d'aller sur place pour montrer qu'on n'était pas d'accord avec ces pratiques-là. Et donc le mardi, on a obtenu qu'il y avait interruption des travaux. Mais... Comme ça montrait, le mercredi, on n'était pas assez nombreux pour empêcher. Et donc, on a mobilisé de nouveau pour le jeudi. Et on s'est dit, on y va très, très tôt pour bloquer les véhicules des ouvriers. Tu veux prendre la suite ?
Oui, on a utilisé des voitures personnelles pour bloquer la route aux ouvriers qui venaient couper les arbres. Ça a marché un temps jusqu'à ce que les flics arrivent et amendent les véhicules pour qui étaient stationnés en travers du chemin, bien entendu. Ensuite, on a donc choisi de monter avec les ouvriers sur le chantier et on s'est opposé à l'abattage des arbres en se mettant devant les tronçonneuses, ce qui est une pratique assez dangereuse, mais ma foi, on n'avait pas vraiment le choix, quoi, en fait. Et à la fin, alors qu'il restait plus que quelques arbres sur la zone, il restait plus que quelques arbres debout, on a donc choisi de monter dans les arbres en pensant que si on était dans les arbres, sans doute, ils n'oseraient pas les abattre. Et ça s'est passé autrement.
Bah oui, comment dire ? Moi, on était plus très nombreux, on était peut-être une dizaine, et avant, on a traversé, justement pour arriver sur le chantier, on a traversé, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était comme un cimetière, tous les arbres couchés dans un sens. C'était horriblement triste à voir, et donc... moi, j'étais complètement désemparée, donc moi, je suis un peu plus âgée qu'Antoine. Mais malgré ça, j'ai décidé de monter sur un arbre. Et on était sur les arbres. Il y a la gendarmerie qui arrive, il y a le service de sécurité, et il y a un fou furieux parmi les bûcherons qui commence à scier l'arbre sur lequel j'étais. C'était un arbre qui n'était pas bien épais et c'était fait en quelques secondes. Il a coupé les branchages sur le côté et donc il a coupé l'arbre et moi j'ai chuté avec. Donc c'était un grand choc, quoi. J'étais évacué par les pompiers.
Et il y a eu des séquelles aussi.
J'ai
en tout cas psychologique.
J'ai des points de suture dans le genou. Au début, je pense que j'ai encaissé le choc. C'est venu après, quoi, de me rendre compte que en fait, j'aurais pu tomber beaucoup plus mal. J'aurais pu être morte.
Oui, ça crée un post-traumatisme aussi.
Et maintenant je me traîne avec des maux de dos. Je pense que sur la longue, ça va se résoudre. Il faut que je voie des ostéopathes. Et heureusement, ils existent. Ils et elles. Et j'ai décidé de porter plainte contre X. Pour violence avec arme, Avec l'aide d'un avocat qu'il a déposé auprès du procureur. Et ensuite, on a décidé avec le collectif d'organiser une conférence de presse qui a eu lieu le 3 novembre. Et on était agréablement surpris parce que donc il n'y avait pas trop de journaux. Pas trop de journalistes. Il y avait Le Dauphiné, il y avait HPI Info, il y avait une télé locale. Mais il y avait beaucoup de soutien. Il y avait beaucoup d'associations du 05 et du 04 qui sont solidaires avec nous. Et ça comme suite maintenant qu'il y a aussi une coordination plus large, donc pas seulement le CAPA qu'on a créé il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois, mais qu'il y a une coordination ici aussi dans la région de Manosque, Fort-Calquier, la montagne de Lure, parce que ces projets, ils poussent comme des champignons. Mmh. Et qu'est-ce que je peux dire ? Donc, on a annoncé à cette occasion-là un événement qu'on veut créer avec nos sympathisants. Donc le 4 décembre, sur Cruis, il y a des modalités qui sont encore à définir. Je vais donner un numéro de téléphone, le site pour après. Mais en tout cas, on ne veut pas laisser la place comme ça. On veut montrer que c'est pas anodin de couper 17 hectares de forêt. On crée vraiment un cimetière. Il n'y a plus rien. Il y a des machines qui mangent les cailloux. C'est vraiment... C'est inimaginable. C'est un désert. Donc, on veut symboliser ça. Que les gens, ils amènent soit des pancartes, soit des croix, où on montre toute cette vie qui a disparu. Et où des entreprises, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qui compte, c'est de produire de l'argent. Sauf que l'argent, on ne va pas vivre avec l'argent. Nous, on a besoin d'un environnement qui crée de l'oxygène, qui crée de l'eau. Ça, c'est les choses basiques. Voilà, donc on a aussi eu la chance de connaître pendant la conférence de presse des gens du groupe national de surveillance de surveillance des arbres, ça existe. Ils nous ont promis d'être là. Donc venez les rencontrer.
Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Après, on rappelle de nouveau ce rendez-vous et on rappellera aussi les différents contacts pour les auditrices et auditeurs
c'est fini, là, après.
Qui nous écoutent. Non, on pourra prendre le temps de dire davantage de choses, mais on fait une petite pause musicale tout de suite. Thank you. C'était le titre Jarabi de Tamouni et Sidiki Diabaté. De retour en direct depuis les studios de Manosque. Hop, les applaudissements.
Donc,
attends, les applaudissements du groupe. Voilà, vous n'avez pas les retours, c'est pour ça. Mais les auditrices et auditeurs ont bien entendu les applaudissements. À la suite de ce titre que nous venons d'écouter, et donc nous sommes avec Carola et Antoine du collectif LZR, collectif opposé au projet photovoltaïque industriel dans la montagne de Lure. Et on va rappeler cette date, ce rendez-vous à Cruis lié au projet de panneaux photovoltaïques justement qu'il y a sur cette commune et plusieurs hectares, 17 en l'occurrence, ont déjà été... rasé, déboisé, et vous en avez fait les frais, vous, Carola, en haut d'un arbre qui a été coupé lors de ce déboisement par un ouvrier. Il y a donc un rendez-vous, c'est le 4 décembre, c'est ça ?
Voilà, donc on va se trouver sur... on n'a pas encore exactement le lieu de rendez-vous, mais ça en donnera. Donc on va se retrouver, pour ceux qui veulent nous aider, à partir de 10h le 4 décembre. Et donc, il y aura un programme qui va démarrer avec plutôt un pique-nique tiré du sac à partir de 14h et jusqu'à 17h. Ah oui, non, le repas tiré du sac, c'est entre midi et 14h, voilà. Et donc, les animations, après, c'est entre 14h et 17h. Et donc, je vous indique déjà une fois... notre mail par lequel vous pouvez nous contacter, c'est resistance-pv-lure@protonmail.com. Il y a aussi un numéro de téléphone, c'est le 06 64 99 77 86. Et il y a aussi un site que vous pouvez consulter. Donc c'est www.lureenresistance, tout attaché, .fr. Donc ça, c'est le rendez-vous pour le 4 décembre. On veut bien vous envoyer un programme plus précis si vous nous contactez.
Et vous avez un site internet aussi où on peut retrouver ces informations.
Voilà, donc je l'ai cité tout à l'heure.
D'accord, je crois que c'était juste l'adresse mail. Très bien. On mettra aussi sur ce site internet
oui,
le
super,
lien direct.
Super. Voilà, et sinon, vu qu'on se trouve à Manosque, je voulais juste dire que vous, les Manosquins, vous êtes aussi concernés par ces histoires de panneaux photovoltaïques parce que vous avez peut-être déjà entendu du projet H-Green. Donc c'est de produire de l'énergie avec de l'hydrogène, mais je pense que le problème il n'est pas du tout encore assez maîtrisé, donc c'est une technologie qui est pas encore très sûre, mais pour ça il faut beaucoup d'énergie et on veut trouver aussi 500 hectares jusqu'à 2030 pour poser des panneaux photovoltaïques ici autour. Et jusqu'à 2050, 1500 hectares. Donc, on va se nourrir avec quoi ? Est-ce que ça va venir, je sais pas, des pays lointains ? Donc, il faut réfléchir. Nous, on invite en tout cas qu'il faut mener un débat public. Il faut créer peut-être des tables rondes. Et il faut peut-être qu'on quitte tous ensemble nos zones de confort, réfléchir sur la question de l'énergie qui n'est pas facile, parce qu'on est habitué à tout avoir relativement facilement si on a assez d'argent.
Avant que chaque arbre se transforme en panneau photovoltaïque, il est intéressant et important, pas intéressant, important d'avoir ce débat, bien sûr. Vous voulez y rajouter
Oui, non, mais je voulais juste dire qu'il y a aussi des initiatives qui proposent des choses. Donc, il y a une association qui s'appelle 3APV.France et c'est une association d'aide à l'autoconstruction des PV. Donc, pour
des panneaux photovoltaïques.
Oui, des panneaux photovoltaïques, oui,
c'est
très juste.
C'est important de le préciser.
Bon, c'est évidemment, c'est aussi pour déjà les gens qui ont des moyens pour les acheter, mais en tout cas, le coût, il est moins grand que si on embauche une entreprise qui pose ça sur les toitures, si c'est fait en autoconstruction et en entre-aide. Donc, il y a les voisins qui aident et après, quand il y a quelque chose qui est réalisé, on aide à son tour à d'autres.
Oui, parce qu'au-delà des méga-projets liés au photovoltaïque, bien sûr, il y a l'utilisation du quotidien, l'utilisation à notre échelle de cette énergie qui est possible et
voilà,
profitable.
Il faut plus penser en décentralisant, parce que bon, les panneaux photovoltaïques, ils sont peut-être moins dangereux que le nucléaire. Mais c'est quand même un désastre aussi environnemental. Donc, il vaut mieux créer une énergie décentralisée, utilisée sur place. On se rend compte aussi de ce qu'on utilise que de faire des transports, de transporter l'énergie sur des grandes, grandes distances. Et comme on apprend en physique, qu'on a beaucoup de pertes aussi en transportant cette énergie.
Et avant tout, j'invite les auditeurs et auditrices, bien entendu, à économiser l'énergie, parce qu'elle n'est pas magique, elle ne vient pas de nulle part. Pour produire de l'énergie, bien souvent, il faut des milieux naturels, et c'est de la forêt en moins, c'est des terres agricoles en moins, et donc il faut l'utiliser avec parcimonie, notre énergie.
Il n'y a pas d'énergie magique. C'est voilà. Donc le mot de la fin, Carola, un dernier mot.
Juste, je rappelle donc le site, c'est www.lureenresistance.fr, un numéro de téléphone 06 64 99 77 86 et puis si vous voulez nous écrire par mail, c'est resistance-pv-lure@protonmail.com.
Merci beaucoup d'être venu dans nos studios et le rendez-vous est donné donc sur votre site internet et la prochaine date à Cruis le 4 décembre. Merci Antoine et Carola.
Merci à vous. On vous donne rendez-vous le 4 décembre.